Aujourd'hui, je reçois Jean-Pierre Bonnefoy qui va nous faire plonger dans le passé, le présent, le futur grâce à son ouvrage Polynésia. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Martine.
Alors, cette grande histoire, parce que ce sont des gros pavés, mais des pavés dans lesquels on se plonge avec délice.
Oui, on peut peut-être... J'ai beaucoup réfléchi pour me dire comment peut-on résumer en une seule phrase les trois ouvrages qui forment la trilogie Polynésia. Peut-être qu'on peut dire que, finalement, Polynésia, c'est d'abord une trilogie, finalement, avec trois livres, dont la Polynésie, mise en valeur, ça c'est intéressant, je pense, par ses mythes fondateurs, et l'acteur principal. Voilà, on pourrait dire ça. C'est d'abord la Polynésie qui est mise en valeur dans les trois livres, que ce soit la Polynésie ancienne, il y a 2000 ans, que ce soit aujourd'hui, par la découverte des îles et bien d'autres choses, des Polynésiens. Et puis, imaginez comment on pourrait parler de la Polynésie, enfin, quel souvenir on aurait de la Polynésie dans 3000 ans.
Donc, les mythes polynésiens avec toujours cette quête d'un pays à découvrir ou d'une île à découvrir, on le retrouve dans le passé, le présent et le futur, qui sont aussi trois thèmes, un, deux, trois, comme des trois livres, un, deux,
surtout,
trois.
Tout d'abord, il faut que je précise une petite chose, parce qu'il y a eu des rumeurs qui sont apparues sur Polynésia. Cette structure en trois temps, c'est-à-dire passé, présent, futur, se retrouve dans chacun des livres. Ce n'est pas le premier tome passé,
oui.
Voilà. Certaines personnes
dès le
ça,
premier tome,
les trois temps sont mélangés.
On a les univers, enfin, si on peut parler des univers spatio-temporels, hein, on a le présent, le passé, le futur, qui cohabitent dans les trois livres.
Oui, cohabiter, pas tout à fait le terme exact. Il y a vraiment trois temps qui ont chacun leur héros, chacun leur univers, chacun les enjeux. Et puis, pour des raisons que l'on découvre dans le livre, petit à petit, ils interagissent. Il ne faut pas dire qu'ils cohabitent réellement, parce que comment peut-on faire cohabiter les premiers Polynésiens partant sur une grande pirogue à la découverte d'une île à l'époque de la création des légendes et des mythes, hein, à l'époque où ils étaient les premiers. Comment peut-on faire coexister ces premiers Polynésiens avec un couple de plaisanciers qui se perd dans la lumière des Tuamotu, ou bien des hommes du futur pour lesquels la Terre est devenue un mythe, ils en sont très éloignés. Donc ils ne cohabitent pas vraiment, mais ils ont des obsessions communes. Voilà. Ils ont des obsessions communes, ils ont des rêves communs, il y a des rapports très étroits, et d'une manière qu'on ne soupçonne pas, insensiblement, ils finissent par interagir. J'aime bien cette notion d'interaction, et on ne peut pas dire qu'ils vivent ensemble, quoique, enfin, c'est aussi du domaine du rêve.
Parce qu'il y a quand même des passerelles entre les trois mondes.
Oui, alors, il faut revenir sur une idée qui est forte, la quête de l'île, puisque je parlais au début des mythes fondateurs, il est certain que la quête de l'île est quelque chose qui est ancré chez l'homme, et particulièrement chez les Polynésiens. Mais c'est la vision que les Occidentaux peuvent avoir des îles n'est pas celle que les Polynésiens ont, mais ça se rejoint. Donc la quête de l'île est dans le premier livre. Le 2 et le 3, il y a toujours cette quête de l'île, mais ils sont beaucoup plus investis par un enjeu sur les formes et les signes qui pourraient être contenus, peut-être on l'a oublié justement, dans les tatouages, ou bien dans certains signes qu'on trouve en Polynésie, ou bien par exemple dans les rongo-rongo de l'île de Pâques. Donc on pourrait dire que les enjeux tournent autour de la Polynésie, la quête de l'île pour le 1, et autour de la Polynésie, les formes contenues dans les signes, les tatouages, la lumière qui court sur l'océan, les signes qu'on trouve dans les rongo-rongo pour le 2 et le 3. Voilà. Donc le 1, c'est un livre. Le 2 et le 3 sont très liés aussi. On pourrait dire que ça forme un tout, un autre livre.
Et je suppose que tu as dû te documenter très sérieusement pour parler du passé polynésien.
Évidemment, bien sûr, mais ça, c'est pas venu... Alors, le passé polynésien, il est pour moi aussi... Je découvre en même temps ce que je suis en train de dire, là. Et je suis en train de me dire, tiens, ce passé polynésien... Je le connaissais un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, parce que j'ai beaucoup navigué à la voile au large. Hein, tu vois ce que je veux dire, Martine?
Oui, donc quand
je suis arrivé ici, j'avais déjà 30 ans de navigation derrière moi à la voile. Et donc, je découvre la Polynésie. Évidemment, je découvre aussi la Polynésie parce que je suis universitaire, parce que je me retrouve dans la position de vice-président de l'université, travailler avec des... Pourquoi je dis ça ? C'est pas pour me vanter, ça n'a aucune importance. Mais le fait d'être vice-président a été pour moi, chargé de la recherche, quelque chose de très important, parce que quand on prend de l'âge et qu'on a des responsabilités dans l'université, on en vient à s'intéresser essentiellement à ce que font les autres, et pas à ce que l'on fait soi-même. Et donc, alors que je suis un scientifique pur et dur, à cause de cette fonction, j'en viens à travailler avec des littéraires, avec des gens qui font du droit, mais aussi avec des gens qui sont anthropologues, comme Bruno Sora, ou archéologues, ou linguistes, etc. Donc j'en viens à baigner dans un milieu où il m'est assez simple, et c'est ce qui est passé, de faire relire, par exemple, la totalité du passé à Bruno Sora, ce qui a donné lieu à de fortes discussions, qui sont parfois d'ailleurs, qui ont été parfois épiques, comme Bruno me dit un jour, dans une scène où on voit, où il y a du scène du passé, où il y a une scène assez violente, avec un poignard qui va être planté dans le dos d'un pauvre Polynésien, Bruno me dit, tu ne peux pas utiliser le terme poignard, parce que poignard, c'est un contexte qui n'existe pas, il n'y a pas de
oui,
poignard.
Oui, parce qu'il n'y avait pas de fer.
Je lui dis, mais alors qu'est-ce que je vais faire ? Et alors Bruno, dans je le connais bien, il est adorable, il me dit, oh, bah, tu vas mettre un rostre d'Espadon.
Oui, c'est ça à quoi j'aurais pensé.
Non, je ne peux pas, c'est trop long. Si je mets rostre d'Espadon, Ça va briser la dynamique de l'action qui est rapide. Le lecteur va se dire, qu'est-ce que ça vient faire là, restreint pas long. Ça va couper. Non, c'est pas possible. Donc j'ai mis le poignard. Mais le jour où il m'a dit, l'eau sur les grandes pirogues, ce serait quand même bien que tu les conserves dans des grands tubes de bambou, scellés avec de la gomme de roue. Tiens, j'ai dit ça, c'est une idée. Voilà. La présence des collègues, par exemple, c'est Louis Spelzer qui a... dans le tome 1, il y a des traductions de certains passages en polynésien. Et alors, je me suis heurté à une question toute bête. Je me dis, mais enfin, c'est polynésien, je l'ai mis en situation il y a 2000 ans. Comment parle-t-il ? Alors, j'ai été voir Louise, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais me faire une traduction de certains passages en polynésien ? Mais imagine du réaumaï ancien il y a 2000 ans. Alors, elle a imaginé du réaumaï ancien il y a 2000 ans. Donc, le polynésien
mais qui est toujours compréhensible maintenant, ou elle a
je suppose, parce
mots,
que Bruno Sora, par exemple, qui lit très bien qui s'exprime et qui lit très bien le réaumaï, mais il m'a dit, quand il a lu ça, il m'a dit, oh, c'est très intéressant, c'est très joli, j'aurais pas pu faire ça, mais c'est bien. Donc, j'imagine qu'on peut le faire. En fait, de toute façon, il n'y a pas de...
Oui, de façon. Oui, tu t'es documenté et il fallait qu'il y ait une véracité dans les dires.
Voilà, on va trop loin là, tu vois, Martine. Ça, c'est typique. C'est intéressant ce qu'on est en train de dire, mais je suis pas anthropologue, je suis pas historien. C'est un roman, donc je mets les Polynésiens en situation. C'est plutôt sympathique que les gens lisant le passé disent ah alors c'est intéressant. Et les Polynésiens, ils commencent à m'interroger sur des problèmes. Qui sont du domaine de l'anthropologue. Je ne suis pas anthropologue. Mais s'ils le font, c'est justement parce que ça marche. Donc je mets les Polynésiens en situation. Mais c'est romanesque. Hein.
Voilà, c'est une façon aussi d'appréhender l'histoire d'une façon romanesque.
Oui.
Alors, le présent, tu parles d'alpha. D'alpha, c'est... pourquoi alpha ? Est-ce que c'est comme alpha dans la meute des loups ? C'est le...
Non, non, non. Il y a une raison. Il y a de multiples raisons. D'abord parce que... le présent, comme encore plus que pour les autres temps, le présent montre bien un passage entre ce qui est et ce qui n'est pas. C'est vrai pour le passé aussi. Hein. Dans le passé, je surfe sur des légendes et puis à un moment donné, je bascule sur autre chose. Le présent, c'est pareil. Au début,
tu t'es inspiré de votre histoire quand même, parce que c'est un peu vous au départ.
Hein, le départ, c'est nous.
Voilà, hein, vous sur votre bateau.
Voilà, mais... Nos proches, même mes enfants, sont incapables de dire à quel moment ce n'est plus nous. Mais c'est bien.
Et toi, est-ce que tu es capable de le dire ?
Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Mais oui, c'est intéressant cette question, parce que le flou existe réellement, parce qu'à certains moments, ça pourrait vraiment être nous, mais ce n'est plus nous. Mais c'est crédible. Et tout est un peu comme ça. J'aime bien faire ce passage. Hein, voilà. Alors pourquoi alpha ? Parce que alpha a une connotation particulière. Et puis peut-être qu'il y a un oméga dans le tome 2.
Tu nous mets en appétit.
Oui, il y a un oméga dans le tome 2.
Et alors, et cette projection dans le futur avec tous ces gens qui ont essaimé, parce que je suppose que la Terre était tellement devenue invivable, que les gens ont été obligés d'aller à la conquête d'autres territoires. Et finalement, ils ont des terres intérieures, puisque La Terre, elle, avait les océans à l'extérieur, et dans les vaisseaux, on recrée la vie telle qu'on pensait qu'elle était avant.
Alors, c'est tout un monde, c'est un véritable univers. Il y a plusieurs questions dans ce que tu es en train de dire. Alors, tout d'abord, pourquoi dans 3000 ans, il y a une raison très simple, c'est que j'ai voulu placer les humains de cette époque dans une situation d'expansion assez aboutie, c'est-à-dire qu'il fallait qu'ils soient nombreux, qu'ils soient loin et qu'il y ait beaucoup de vaisseaux. Pour que le lecteur, petit à petit, finisse par faire une analogie entre ce qu'a été le Pacifique, qui a toujours été immense, mais qui était sans doute encore plus immense à l'époque de sa conquête, puisqu'on pouvait le considérer comme infini à cette époque-là, il y a 2000 ans. Donc, pour qu'on puisse un peu faire cette analogie. Donc, il fallait placer les humains du futur dans une situation où ils sont dans leur vaisseau, un peu perdus dans l'espace, comme sans doute étaient les premiers Polynésiens perdus dans l'immensité du Pacifique. Donc voilà. Alors maintenant, ils ont quitté la Terre, oui, mais à l'époque où la situation, où on se trouve, là, au 51e siècle, ils ont quitté la Terre depuis 2000 ans, hein, quand même. Hein. Voilà. Alors ils l'ont quitté pour des raisons j'ai utilisé une idée qui est très classique. Hein. Un petit pays provoque une oui. pollution radioactive qui apparaît d'ampleur planétaire.
Oui, donc ce qui paraît malheureusement probable.
Voilà, c'est plausible.
Plausible.
Sauf que quand même, entre le moment, ça se produit exactement le 10 avril 2514, entre le 10 avril 2514 et le moment où ils quittent le système solaire à bord de leurs 8 premiers vaisseaux stellaires, c'est-à-dire au début du 31e siècle, il s'est quand même passé 500 ans, demi-millénaire.
Donc ils ont eu le temps de réfléchir et d'adapter leur,
Ils ont surtout eu obligatoirement besoin, il faut que ce soit crédible, de beaucoup de temps pour passer d'une catastrophe planétaire à la réalisation d'engins. Est-ce qu'on peut dire engin ? Parce qu'un vaisseau lumière, ça fait 500 km de long sur 250 km de diamètre. C'est une taille quasi planétaire. Construire ça sur orbite lunaire, c'est pas un projet, c'est un projet de civilisation.
Alors, en fait, au début des temps, dans le passé, c'est une catastrophe qui a conduit ces premiers Polynésiens à partir, dans le futur aussi, mais dans le présent, est-ce que c'est une catastrophe aussi qui conduit Alpha et son compagnon à partir ?
Non, absolument pas. Puisqu'on est exactement dans la situation...
Non, mais ça, c'est une question pour titiller.
Non, ce n'est pas une catastrophe du tout. C'est une situation tout à fait ordinaire. C'est vrai que, encore une fois, le présent est hyper classique d'auteurs. Beaucoup d'auteurs ont écrit cette situation. Un couple découvre la Polynésie, c'est tout à fait ordinaire. Tout le monde a écrit ça, sauf que nous, ça tourne à la schizophrénie, quoi. Voilà.
Carrément.
Oui, dans le 1, Alpha, ouais. finit par confondre réellement, c'est d'ailleurs un indice net de la schizophrénie, elle ne sait plus faire la différence entre ses propres rêves et la réalité des choses. Au point que... Et alors, nous sommes réellement allés à l'endroit que je décris. On a passé, je ne sais plus combien de temps, 15 jours, paumés, loin du monde, dans le nord du lagon d'Apataki, dans les endroits où il n'y a réellement personne. Et c'est vrai que c'est à cet endroit-là, dans ces endroits-là, dans les Tuamotu, on trouve des situations où on a l'impression que le temps n'existe plus et que le paysage est comme il était il y a un siècle, voire 1000 ans.
Je confirme, pour avoir vécu longtemps dans les Tuamotu.
Voilà, il y a des endroits perdus, on ne voit pas une seule pirogue pendant plusieurs jours.
On est en dehors du temps. Donc en fait, ce présent est en dehors du temps, bien qu'il soit dans le présent.
Ah oui, complètement. Oui. C'est comme si, et ce n'est pas une invention, d'autres gens l'ont ressenti, hein, c'est comme si quand on allait au Tuamotu dans ces endroits-là, on avait presque une porte qui s'ouvrait vers le rêve. Quoi. Ben, c'est ce qui se passe pour Alpha. Elle pénètre dedans, elle se prend pour la déesse de la Lune. On nous a offert une petite pirogue qui fait 2 pieds de long, sur laquelle il y a des petits personnages. Elle va poser cette pirogue sur l'eau.
Et elle joue avec de façon à ce qu'ils prennent vie.
Elle joue avec les personnages.
Se pensant investie de pouvoir, puisqu'elle est la déesse de la Lune.
Elle est persuadée qu'elle est investie. Mais elle fera pire dans le tome 2 et 3.
Ben écoute.
Mais le tome 2 et 3 ont un côté moins rêveur que le 1. Parce qu'il y a des terroristes. Parce que la conférence internationale de l'ONU sur le désarmement nucléaire est menacée par ces terroristes. Parce que Alpha et son compagnon sur l'océan vont trouver un petit cylindre par hasard, dans des circonstances particulières. C'est ce genre de petit cylindre étanche dans lequel les plongeurs mettent leurs clés ou leur argent de poche. Et quand il y a des vis, qu'est-ce qu'ils trouvent dedans ?
Ne le dis pas. C'est le mystère.
Ce petit truc qu'on met dans un ordinateur, là. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, on ne le dira pas. Mmh. Alors, Jean-Pierre, est-ce que tu arrives à sortir de ton œuvre de temps en temps et à être sur Terre avec nous, dans le présent, là? Ta Wii FM, là?
Oui, c'est possible, mais c'est vrai qu'il ne me quitte pas.
Alors, pour inciter aussi nos auditeurs à aller lire non seulement ton livre, mais d'autres livres, et à plonger dans cette saga, vous avez mis aussi en place un jeu absolument étonnant, puisqu'il s'agit d'aller dans une librairie, quelle qu'elle soit, ou dans les grands magasins de la place, côte ouest, côte est, hein, remplir un petit bulletin. Et ce qu'il y a à gagner, c'est drôle, c'est le premier lot, c'est un week-end avec vous, enfin 2-3 jours sur votre bateau.
Avec l'auteur et avec Alpha.
Étonnant, quoi.
Oui, c'est ça. Oui, alors, mais va-t-on les emmener à Pataki et ouvrir les portes du rêve? Je ne sais pas
si je vais remplir mon bulletin.
Il faut dire quand même que ce jeu fait partie d'une opération de promotion qui n'est pas de notre fait. Il se trouve, et c'est un bonheur pour nous, qu'il y a quelques fans de Polynésia à Tahiti. Qui se sont mis en tête de faire une promotion.
Originale.
Une promotion, et dans laquelle. Alors, c'est l'agence Pomme Z Media, qui est une agence jeune, mais extrêmement dynamique.
Et créative. C'est quand même original.
C'est eux qui ont fait les dossiers de presse, et c'est eux qui sont l'initiative de ce jeu. Alors, ce jeu, c'est extrêmement simple, d'abord pour jouer, parce qu'il suffit de remplir un flyer, un petit carton, hein, il suffit de mettre son nom. Son adresse, on met ça dans une urne qu'on va trouver dans toutes les librairies de la place, et dans un mois, un tirage au sort sera fait, donc il suffit de mettre la feuille et son nom et un tirage au sort. Alors le premier lot est un voyage, est une croisière de 2 jours à Moréa avec le véritable Toa Marama, c'est pas la pirogue de Toa...
Et le vaisseau spatial, est-ce qu'on a un jeu aussi pour gagner?
Je ne sais pas, mais le Toa Marama ressemble un peu à un vaisseau spatial.
Ah bon, bah alors donc on vous conseille. Alors le deuxième lot,
eh bien, c'est un week-end dans un hôtel Sofitel de Moréa ou de Bora Bora au choix des gagnants. Et le troisième lot, c'est un billet d'avion Air Tahiti pour Raiatea pour 2 personnes. Et puis il y a d'autres lots. Qui consiste à gagner la trilogie complète, c'est-à-dire Polynésia, les mystères du temps, l'invasion des formes et le pouvoir des signes, donc les 3 livres, pour les 4e et 5e lots, et puis les derniers lots jusqu'au 10e, c'est un des tomes de Polynésia au choix.
Voilà. Écoute, en tout cas, c'est un beau cadeau que tu nous fais, parce que non seulement on va lire et on va continuer à voyager dans le présent, si on gagne le premier lot, et en tout cas dans le passé, le présent, le futur, en lisant les 3 ouvrages. Merci Jean-Pierre.
Merci Martine.